l'enregistrement sur cet ordinateur. Voilà, alors bonsoir, bienvenue à ce Thinker Zoom qui porte sur le fait qu'une autre fin du monde est vraiment possible. Et donc derrière, comment ou qu'est-ce qui nous porte à espérer malgré toutes ces questions d'effondrement qu'on entend de plus en plus et qui s'avèrent, enfin, c'est pas seulement qu'on les entend, c'est qu'on se rend compte en effet que le monde tel qu'on le connaît, notre monde thermo-industriel, notre civilisation thermo-industrielle ne peut pas durer très longtemps. Donc, c'est avec ce point de départ-là d'une fin et d'une transformation de ce monde que la discussion va prendre forme. En posant la question fondamentale, qu'est-ce qui porte à espérer? Et donc, comment appréhender les possibles effondrements à venir sans sombrer dans la dépression où ce terme est de plus en plus entendu, presque à la mode, la fameuse éco-anxiété. Signe des temps aujourd'hui, de plus en plus de jeunes gens refusent d'avoir des enfants dans un monde pareil. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est tomber dans le nihilisme? Est-ce que pour avoir des enfants, on reste simplement aveugle devant la situation de monde? La question des enfants n'est qu'un symptôme parmi d'autres où finalement on se rend compte à quel point le monde va très mal, surtout quand on est jeune et qu'on regarde notre futur, on se dit mais qu'est-ce qui me reste? Jusqu'où pourrons-nous aller normalement? Et à quel moment, peut-être, peut-il y avoir basculement? Mais du coup, quand on parle basculement, où est-ce qu'on basculerait? Comment on basculerait? Évidemment, on n'est pas devin, il ne s'agit pas de construire des scénarios, personne ne sait exactement ce qui va se passer, mais comme le sous-titre du fameux livre à partir duquel donc cette discussion. Il y a un drôle d'écho. du coup j'ai été déconcentré. Le sous-titre de cet excellent livre, donc Une autre fin du monde est possible, j'ai mis la couverture, la plupart d'entre vous le connaissez peut-être, et vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. À partir du moment où il y a basculement, vers où allons-nous?
Je fais un truc de zoom.
Ah oui, il y en a d'autres qui ont... Je me permets juste, ouais. Si vous voulez bien, quand vous vous branchez, de bien fermer les micros. Voilà. Donc, vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. Et du coup, qu'est-ce qui permet dans cette vie de donner sens aux choses qui sont, à notre vie quotidienne, à nos engagements par rapport à un futur qui devient de plus en plus incertain? Qu'est-ce qui nous ancre? Qu'est-ce qui nous permet de trouver une joie de vivre et une paix intérieure? Voilà un peu le contexte général de notre discussion ce soir. J'aimerais présenter maintenant Gauthier Chapelle, qui donc est l'un des co-auteurs de ce livre, mais également co-auteur avec Pablo Servigne de L'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui a écrit un troisième livre que je n'ai pas pu retrouver dans ma bibliothèque parce qu'on est en déménagement ici, sur le biomimétisme. Parce que Gauthier Chapelle donc, est ingénieur agronome, docteur en biologie, cofondateur de Biomimicry Europa, et a également cofondé une société Green Loop spécialisée dans les modèles résilients et bio-inspirés. Je vais me permettre de tutoyer Gauthier puisqu'on se connaît personnellement. On aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Mais donc Gauthier, tu as travaillé pendant une dizaine d'années sur la biologie des crustacés polaires. Ça, j'avoue que je me souvenais plus de cette particularité, ce qui t'a amené plusieurs fois en Antarctique et t'a fait voir de très proche la question du réchauffement climatique et les changements qu'on peut observer à la fois là-bas et dans le monde. Mais donc, c'est pas tant en tant, enfin, plusieurs à l'EPFL sont des ingénieurs ou de futurs ingénieurs, mais c'est pas tant en tant qu'ingénieur, en tant que tel, que tu es invité ce soir, mais parce que, auteur de ces différents livres, donc, tu vas nous aider à penser ce que, avec Raphaël Stevens et Pablo Servigne, vous avez appelé la collapsosophie, c'est-à-dire la sagesse dans le collapse, et comment devenir finalement les collapsonautes et arriver à donc à ne pas être enseveli par cette vague, mais à pouvoir, j'aime pas trop l'idée de surfer, mais à pouvoir les prendre pour pas être submergé par elles. Donc, Gauthier, merci d'être
Mais
là.
merci Xavier pour cette introduction. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, donc tu me fais démarrer à chaud là-dessus, sur cette aventure-là avec Pablo et Raphaël. Je précise par rapport à la façon dont tu m'as présenté, donc le bureau d'études dont tu as parlé, Greenloop, on l'a cofondé avec Raphaël. Donc ça veut dire que Raphaël et moi, on se connaît depuis très longtemps. C'est en cours de route de cette route-là qu'on a rencontré Pablo. Comme ça, je vous remets un peu comment le trio s'est trouvé. Et puis depuis, ben on est restés très proches tous les trois. On forme ce que Pablo appelle un super organisme qui étend ses pseudopodes bouquins à droite à gauche. Donc une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, une fois c'est à deux, une fois c'est à trois. Et effectivement, le premier qu'on a vraiment écrit tous les trois et qu'on a vraiment écrit ensemble, c'est-à-dire pas chacun une partie, mais bien sûr, chacun a été sur les sujets qui lui tenaient le plus à cœur, mais en le faisant vraiment ensuite en collectif, c'est celui-là, donc une autre fin du monde est possible. Et pour nous, je dirais qu'on l'a écrit, dans la foulée de Comment tout peut s'effondrer, que moi je n'ai pas écrit, qui est celui de Pablo et Raphaël, mais dont j'ai complètement suivi l'aventure. On était ensemble sur le. Enfin, on a tous les trois ce souvenir du trottoir bruxellois où le mot collapsologie est descendu, où il était choisi, mais un peu en boutade, sans du tout s'imaginer que ça allait devenir ce que c'est devenu. Mais surtout, voilà, on a derrière Comment tout peut s'effondrer, on a senti à quel point, sans doute essentiellement parce qu'il est sorti au bon moment, enfin ça ne veut rien dire au bon moment, mais il est sorti et puis dans l'année et demie qui a suivi, les tuiles ont commencé à vraiment se multiplier. Et j'en prends une qui a été très emblématique en francophonie européenne, on va dire, qui est la démission de Nicolas Hulot lors de ce fameux été qui était en même temps un été caniculaire avec des rapports du GIEC assez catastrophiques, plus la démission de Nicolas Hulot. C'est à ce moment-là que la collapsologie a vraiment, je dirais, pris dans les médias, parce que là, c'était considéré comme un discours catastrophiste inaudible, et puis tout d'un coup, c'est devenu audible, et puis c'est devenu plus qu'audible. Et maintenant, c'est devenu ce que Pablo appelle, dit, c'est un monstre maintenant qui nous dépasse, avec les excès rhétoriques qu'il peut y avoir dans tous les sens, mais donc aussi les excès émotionnels qui y sont liés. C'est à ça que je voulais venir. Et les excès émotionnels étant soit liés à ce que les médias ont fait de la collapsologie, soit simplement et beaucoup plus fondamentalement liés au fait que on n'a jamais, je dis on, là je m'associe maintenant avec Pablo et Raphaël, on n'a jamais fait que mettre des mots sur des intuitions que beaucoup d'entre nous avaient. Et quand je dis beaucoup d'entre nous, c'est probablement beaucoup d'entre vous. Voilà, on a à un moment donné, Pablo et Raphaël ont mis ce mot d'effondrement avec un grand E, on pourra y revenir d'ailleurs, petit E ou grand E éventuellement, sur cette question qui est en fait. Que je dirais tous les gens qui étaient sur les questions environnementales et sociales dans une moindre mesure, mais environnementales certainement, sentaient que voilà, que ça ne le faisait pas, quoi. On avait beau avancer, ça ne le faisait pas. Et là, ça fait rentrer dans des émotions qu'on n'aime plus dire négatives, mais plutôt des émotions douloureuses, qui nous font basculer dans ce qu'on appelle maintenant effectivement l'éco-anxiété, sachant que, ça c'est une chose que je voudrais tout de suite poser, que pour moi l'éco-anxiété est une réaction saine à un monde malsain. Donc, quand un monde est malsain, il y a un moment donné où on finit par le sentir et les premiers qui le sentent s'en font le reflet et les témoins. Et je dirais que pour moi, c'est ça l'éco-anxiété, ce qui fait que ce n'est pas un terme, je vous le dis tout de suite, dont je raffole. Et donc, à partir de là, en sentant ces émotions qui montaient, en ayant eu nous-mêmes le temps de les traverser, parce que Comment tout peut s'effondrer, il est sorti en 2015, donc on a eu le temps de digérer tout ça avant 2018-2019, ben on s'est dit que ça valait la peine de témoigner de comment nous, on avait traversé ça. Et c'est ce qu'on a mis dans Une autre fin du monde est possible, en mettant un peu tous les champs, en balayant tous les champs des grosses notions qui nous ont aidés, nous, à traverser et apprendre à vivre et apprendre à naviguer. En fait, tu disais surfer. En fait, on dit naviguer, parce que collapsonautes, c'est ça le sens. Hein. C'est les cosmonautes qui naviguent dans le cosmos. Mais les collapsonautes, c'est les gens qui naviguent dans le collapse et qui ne s'y noient pas, qui ne surfent pas non plus. Je ne dirais pas que c'est juste surfer, parce que c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas, qui naviguent. Et avec, effectivement, cette idée de ne pas juste survivre à l'effondrement, mais d'y retrouver de la joie. Et la joie, j'ai envie de dire presque avec un grand J, on pourra y revenir aussi, mais d'y trouver de la joie et donc d'y vivre. Et de vivre aussi cela comme une époque absolument passionnante, qu'objectivement elle est, toute anxiogène qu'elle puisse être en même temps, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est justement tout le sport de la collapsosophie, c'est d'apprendre à goûter les deux à la fois, et donc finalement de nous amener à une autre boutade dans le bouquin, c'est à transformer une apocalypse en apicollapse.
Parce que tu me disais en préparant cette rencontre que pour toi, tu avais même envie d'utiliser le sous-titre comme titre de ce bouquin, que finalement c'était beaucoup plus...
Oui, absolument, absolument. Moi, en fait, j'étais, voilà, là vous rentrez dans les coulisses, hein, mais quand on a discuté sur le titre, moi je trouvais que l'expression « fin du monde » ne devait pas être dans le titre, parce que pour les gens qui ont du mal, qui ont déjà eu du mal à ouvrir « Comment tout peut s'effondrer », mettre un titre comme « fin du monde » sur le livre, d'autant que nous, on ne prédit pas du tout, enfin on ne prédit rien d'ailleurs, mais on ne discute pas sur la fin du monde, mais la fin d'un monde. Donc on a tordu ce truc dans tous les sens, mais voilà, c'est un peu les formules d'éditeurs et les formules choc qui l'ont emporté. Mais effectivement, moi j'étais beaucoup plus favorable à ce qu'on mette le sous-titre en avant. Et il se fait que, récompense quand même, quand ça a été, parce qu'on a eu droit à une campagne d'affichage dans le métro parisien, en fait c'est le sous-titre qui est devenu le titre de l'affiche, ce qui m'a fait très plaisir. Et le titre est passé en sous-titre. Donc c'était, à mon avis, plus juste.
On va revenir dans le contenu de ce bouquin, mais j'aimerais faire juste une parenthèse, un pas de côté avec le premier, l'autre livre, Entraide, l'autre loi de la jungle, que je vous recommande aussi chaudement. Parce que finalement, si le monde va mal, c'est notamment à cause de cette règle de la compétition, de cette loi de la jungle, comme on dit dans notre récit néolibéral, qui voudrait nous faire croire que c'est toujours le plus fort qui devrait gagner aux dépens des autres. Et qu'il est important, enfin, que sortir de ce paradigme de la compétition, c'est finalement une des solutions. Mais j'étais curieux par rapport à cette question de l'entraide, de savoir comment toi, au quotidien, tu vivais justement cette sortie de ce paradigme de la compétition pour entrer dans celle de l'entraide.
Oui, alors effectivement. Alors d'abord préciser que ce bouquin-là, en fait, il a été écrit, c'est un peu une trajectoire intéressante parce que c'est un bouquin que Pablo avait dans ses tripes depuis, je dirais, 15 ans. Il a fait sa thèse sur les symbioses de fourmis. Et puis, il l'a glissé, je dirais, entre « Comment tout peut s'effondrer » et « Une autre fin du monde est possible ». Et moi, je l'ai vraiment aidé à en accoucher, sachant que j'étais moi-même un passionné des symbioses en tant que... je dirais en tant que biologiste, mais aussi en tant que naturaliste, tout simplement. Et donc, lui comme moi, on avait l'habitude de voir beaucoup plus et d'être beaucoup plus intéressé, par ailleurs, par tous les phénomènes d'entraide qu'on voyait dans le vivant entre différentes espèces, plutôt que cette sempiternelle loi de la jungle numéro 1, je l'appelle maintenant loi de la jungle numéro 1, et je ne devrais même pas mettre des numéros, qui est, comme disent les Anglais, « tooth and claws », donc les dents et les griffes, qui est un peu la loi du plus fort. Nous, on voyait vraiment autre chose. Et il se fait que ce bouquin s'est très bien infiltré entre les deux sur l'effondrement parce qu'il a deux leçons essentielles à nous apporter. La première, donc, qui ont rapport avec l'effondrement, la première étant d'abord qu'effectivement, l'entraide est une loi de la jungle numéro 2 ou numéro 1 bis, c'est selon, mais en tout cas sur le même pied que l'autre, voire même, moi j'aurais même tendance à la mettre au-dessus en termes d'importance et de prévalence. Et en tout cas, l'entraide est vraiment un phénomène extrêmement répandu dans le vivant depuis la naissance du vivant. Dès qu'il y a eu différenciation dans le vivant, c'est-à-dire que dès qu'une souche bactérienne s'est transformée en deux souches bactériennes, elles ont commencé à collaborer ensemble et ça n'a pas arrêté. Et on a des tas d'exemples, je ne vais peut-être pas les détailler maintenant, mais on a des tas d'exemples de relations même de prédation ou de compétition, qui sont les deux relations classiques dites plutôt négatives, qui se transforment en relations d'entraide, de symbiose, donc des relations positives pour les deux membres de la relation, et qui en plus, du coup, ont même permis des sauts de complexité, des sauts évolutifs complètement fondamentaux. Et en fait, la plupart des grands sauts évolutifs sont dus à des collaborations et souvent d'ailleurs à des prédations ou même des parasitismes qui ont tourné en collaboration. Et je vais quand même en fait donner un exemple parce qu'il est lié à ce que nous connaissons actuellement avec le coronavirus. C'est que les mammifères, alors vous savez que dans les mammifères, il y a ceux qui ont des placentas et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, c'est les kangourous et compagnie en Australie, donc les marsupiaux. Et puis, il y a ceux qui ont inventé le placenta. Le placenta, vous voyez tous ce que c'est a priori. Eh bien, le placenta est une invention due à une collaboration entre un virus et notre corps. C'est-à-dire que techniquement, un bébé n'a pas la même génétique que sa mère et normalement, il est rejeté par le système immunitaire. Et s'il n'est pas rejeté par le système immunitaire, c'est à cause de l'intervention d'un virus qui fait maintenant partie de notre génome, donc qui a été complètement intégré dans nos chromosomes, on peut dire, et qui permet, qui a permis véritablement cette invention des mammifères ou des types bien particuliers de mammifères que nous sommes au même titre que les baleines, les vaches, les souris ou les chauves-souris. Voilà, ça c'est juste un exemple. Et puis après, on a prolongé dans le bouquin en insistant sur le fait que non seulement ça c'était vrai dans le reste du vivant, chez les autres humains, comme on dit dans notre petit jargon, mais aussi chez les humains, qu'en fait les humains sont l'espèce sociale par excellence. On est même une espèce, on fait partie des espèces hyper sociales, capables de collaborer entre inconnus. Et quand je dis entre inconnus, ça veut dire des gens qui ne sont même pas apparentés génétiquement. Alors, il se fait qu'on est tous apparentés génétiquement, mais en tout cas, qui ne sont pas des proches, quoi, qui ne sont pas nécessairement de votre famille. Et ça, il y en a peu qui le font. Même chez les insectes sociaux, c'est assez rare. Et une espèce tellement sociale, on est même fondamentalement une espèce sociale. Moi, j'aime bien de rappeler le proverbe africain qui dit « il faut un village pour élever un enfant ». On a vécu l'essentiel de la vie de l'espèce humaine pendant 300 000 ans en tant que petit groupe de chasseurs-cueilleurs où l'unité demandait de l'entraide. Ce n'était pas juste famille contre famille, c'était un groupe de famille et les bébés, dès leur naissance, se débrouillent pour provoquer de l'entraide autour d'eux et pas juste avec leur maman et leur papa, de façon bien plus large que ça. Ils sont donc excellents pour déclencher de l'entraide, ce qui veut dire que moi je crois profondément que l'entraide elle est câblée au départ biologiquement, ce qui fait d'ailleurs que quand on voit des gens qui s'entraident, ça nous fait plaisir, et que quand on voit des gens qui sont injustes les uns vis-à-vis des autres, ça peut nous inspirer du dégoût, et c'est une réaction émotionnelle j'ai envie de dire presque primaire. Alors après, comme on est une espèce aussi culturelle, bien entendu, votre culture peut ou non appuyer sur ces boutons de l'entraide et on peut complètement tomber dans une culture de l'individualisme et de la compétition à partir d'un fond d'entraide. Il n'empêche que les sociologues des catastrophes montrent que en cas de catastrophe, et on le voit dans la plupart, le comportement dominant est un comportement d'entraide. Je n'ai pas dit exclusif, mais dominant. Et à la limite, plus une crise est grave, plus on devient tous des humains qui connaissent parfaitement le principe de réciprocité et on se sauve les uns les autres entre inconnus, pratiquement les yeux fermés, sans réfléchir. Et on a même montré que plus vous avez du temps pour réfléchir, moins vous le faites, surtout dans notre culture. Alors, le dernier point qui est super important par rapport à l'effondrement, c'est qu'on a en plus montré, quand je dis « on », c'est des milliers de chercheurs sur des milliers d'études différentes, que aussi bien dans le reste du vivant que chez les humains, plus la situation se durcit, plus l'entraide augmente. Je l'ai déjà dit avec les sociologues des catastrophes, mais c'est vrai aussi chez les bactéries, les plantes ou n'importe quelle autre espèce. Et ça, c'est quand même un message vachement intéressant. C'est vrai aussi dans les sociétés humaines, en règle générale, quand les pénuries frappent, eh bien, les humains s'organisent et s'organisent en entraide. Là aussi, le Covid nous a montré en partie ça. Il ne nous a pas montré que ça. Mais justement, il nous a montré d'autres choses. Il nous a montré aussi qu'on était une espèce qui avait le choix et qu'on avait le choix, si on voulait, de rester dans l'individualisme et la compétition forcenée qu'on nous chante à longueur de journée. Et donc, toute la question maintenant est de savoir si on veut rentrer dans cette période d'effondrement à définir, mais d'effondrements divers et variés, en tout cas de fin un peu brutale de la civilisation thermo-industrielle, en y arrivant avec une culture de la compétition ou en y arrivant avec une culture de l'entraide. Et c'est pour ça que pour nous, on travaille beaucoup sur l'entraide. Et maintenant, j'en reviens à ta question, qu'est-ce que ça veut dire moi au quotidien ? Ben, ça veut dire qu'au quotidien, moi, quand on me demande c'est quoi les solutions, d'abord je dis qu'il n'y a pas de solution, et ensuite je dis la première chose à faire tous les jours, c'est travailler vos réseaux, c'est travailler votre entraide, que ça soit avec le voisin que vous ne connaissez pas encore très bien et qui peut-être n'a pas tout à fait la même culture que vous, et puis surtout vos réseaux, j'ai envie de dire vos tribus de cœur, les choses qui vous sont spontanées et naturelles, qu'en vous appuyant, que ce soit sur vos familles d'origine ou surtout sur vos familles construites, j'ai envie de dire. Et là, j'en profite pour revenir à une des choses que Xavier avait évoquées tout à l'heure, c'est que Xavier et moi partageons une culture familiale commune, si je puis dire, ou une culture tribale commune, qui est la culture du travail qui relie. Ce sont des ateliers qui ont été lancés par une mamie américaine, enfin elle est mamie maintenant, elle a plus de 90 ans aujourd'hui, qui travaille sur la reliance à soi, aux autres humains et à la Terre et aux autres qu'humains, et que ça crée une appartenance très forte quand on est passé par ces ateliers, et on est passé ensemble par un de ces ateliers avec Xavier il y a 2 ans, je crois.
Alors, ce que Gauthier ne sait qu'à moitié, c'est que même moi, j'ai bénéficié des papiers de Gauthier pour animer mon premier TQR. tu m'avais envoyé par Elena des documents pour justement parler de tout ce qui était biologie. Mais restons donc sur cette question de la reliance et aux autres qu'humains. Il y a cette entraide, et tu l'as très bien dit, à différents niveaux, et surtout cette entraide au-delà pour l'humain qui est capable de sortir de sa tribu et d'animal très social. Maintenant, il y a cette déconnexion aujourd'hui avec le reste du vivant qui explique aussi grandement la crise écologique actuelle. Nous n'avons plus les pieds sur Terre, littéralement. Nous sommes complètement déconnectés du système Terre dans lequel nous vivons, mais avec tout ce qui est en artificialisant, avec la technologie et tout ça, on n'est plus dans le rythme des saisons, on n'est plus en contact avec les forêts qui nous entourent ou avec plein d'exemples qu'on pourrait donner. Comment là, cette reconnexion au vivant te ramène à cette joie profonde ou à cette joie avec un grand J que tu évoquais tout à l'heure?
Oui, alors ce qui est intéressant dans ta question, c'est que non seulement donc il y a ce constat de la déconnexion, mais le constat de la reconnexion aussi, c'est qu'on on retourne à de l'entraide entre nous et les autres qu'humains. Mais pour ça, il faut d'abord réapprendre à les prendre au sérieux. Et là, il faut vraiment remettre notre culture complètement en question, parce que notre culture à nous, je dirais les occidentaux thermo-industriels, c'est quand même d'estimer que les autres espèces sont des espèces de choses plus ou moins décérébrées, sans conscience, vivantes pour certaines, un peu moins pour d'autres. Et là, l'invitation, c'est un petit peu de nous réinspirer d'ailleurs de ce qu'on appelle les peuples racines ou les peuples premiers, pour voir comment appréhender une relation où on se remet tous sur le même pied, ce qui ne veut pas dire nécessairement sur pied d'égalité sans considérer les différences, mais en tout cas comme étant tous des passagers ou en tout cas des co-citoyens de Gaïa, vivant non seulement les uns à côté des autres, mais surtout en interrelation les uns avec les autres. Alors après, au quotidien, comment je vis ça ? Bon, moi, ce qui est un peu faussé, c'est que moi, je suis naturaliste déjà depuis que j'ai 10 ans, donc ça a toujours été un plaisir pour moi. Mais justement, je dirais que quand j'ai commencé à être naturaliste, c'était un plaisir qui était d'abord un plaisir, je dirais, ou en tout cas en grande partie cérébrale, avec notamment le sport de l'identification que tous les gens qui ont commencé à regarder les oiseaux connaissent. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué, et en particulier, ça a évolué au fur et à mesure que moi, je rentrais dans l'éco-anxiété. Et tu as parlé de l'Antarctique, c'était un de mes premiers chocs personnels. Ça a été à la fin de mon premier séjour en Antarctique de débarquer sur une plage qui était couverte de plastique. Et je vous parle là de une plage antarctique, hein, et je vous parle là de 1988, donc je ne vous dis pas dans quel état elle doit être maintenant. Et à partir de là, le contact avec les autres qu'humains a pris vraiment au fur et à mesure une autre couleur et une autre importance, jusqu'à ce que, et je n'en reviens toujours pas du temps qu'il m'a fallu pour ça, je finisse par me décider à sortir de la ville, C'est-à-dire que je cultivais, moi, le contact.
Au béton.
Ouais, je vois une question là sur c'est quoi le naturalisme. Être naturaliste, rapidement, c'est Darwin était un naturaliste plus qu'un biologiste. C'est regarder les autres espèces. Regarder, et souvent, il y a la question de l'identification, apprendre à regarder comment elles vivent, etc. Mais c'est, voilà, c'était un métier, c'est devenu de plus en plus. Il y a de plus en plus de naturalistes amateurs et de moins en moins de naturalistes professionnels. Donc, c'est un peu une version différente des biologistes ou une sous-version des biologistes, je ne sais pas comment il faut dire. Mais bref, donc, de plus en plus, voilà, je suis rentré dans plus de rencontres avec le vivant, avec les autres espèces. Et maintenant, j'ai même, je dirais que la boucle est bouclée maintenant, jusqu'au jour où j'ai lu dans un bouquin écrit d'ailleurs par une botaniste amérindienne, qui a les deux casquettes elle aussi. Elle dit « nommer, c'est honorer ». Et qu'en fait, nommer, c'est-à-dire apprendre à distinguer autour de nous les différentes espèces d'arbres, c'est les nommer et les voir en tant qu'êtres différents, c'est aussi les honorer et c'est aussi, ça peut aussi être une porte d'entrée à la rencontre. Alors ça, c'est au niveau de l'espèce. Après, bien sûr, ça se fait aussi au niveau de l'individu. Et c'est là que ça devient vraiment, là, on rentre dans la tendresse, quoi, une fois qu'on peut... voilà les relations particulières qu'on va avoir aussi bien avec l'arbre qui est devant chez soi que le rouge-gorge qui vient sur le balcon le matin ou sa petite plante sur son appui de fenêtre. Hein. Ça n'a pas besoin d'être évidemment des espèces sauvages pour autant. En tout cas, même quand elles sont ramenées dans un petit pot à l'intérieur, elles ont encore des choses à nous dire. Et puis pour finir, je voudrais encore ajouter un pas plus loin. Il se fait que là où nous on est sortis, maintenant on a l'immense chance d'avoir une rivière au bout du jardin. Et ça nous fait aller encore un pas plus loin dans la rencontre avec le vivant. Est-ce que le vivant, c'est seulement la définition que la biologie en a donnée, donc les êtres vivants, tous descendants de Mamma bacteria originelle, ou bien est-ce que les rivières aussi sont vivantes, les montagnes, les roches? Et là, en l'occurrence, je dirais que le moyen le plus simple de commencer à rentrer là-dedans, pour moins se couper de la terre, c'est de retirer ses chaussures et d'aller faire un tour dehors, même par cette température-là. Hein, si on ne reste pas trop longtemps, c'est franchement pas très risqué. Et c'est en tout cas beaucoup moins risqué que bien d'autres comportements actuels.
Mais donc, ça t'enracine, le fait, par exemple, d'aller à la rencontre de cette rivière et puis de tout l'écosystème autour de cette rivière, tous ces habitants qui, autres qu'humains, partagent avec toi la présence de cette rivière, comment t'arriverais à formuler la joie ou la comment tu arrives à expliquer que c'est ça qui vient finalement t'ancrer à ton être profond?
Alors, j'ai envie de nommer deux choses. D'abord, effectivement, il y a cet émerveillement pour la diversité. Moi, depuis que je suis, là, ça fait 2 ans que je suis ici et je continue un certain travail de naturaliste quand même. Enfin, travail pour le fun. Hein. Mais justement, le fun, ça me donne de la joie, ça, pour le coup. Qui est de découvrir cette diversité. Et là, je crois que j'en suis à peu près à 600 espèces tout confondues ici sur à 3 km à la ronde, quoi, dont une grande majorité dans mon jardin. Donc déjà, cet émerveillement de la diversité, de voir que le vivant prend toute opportunité, est une opportunité pour d'autres et encore pour d'autres. Et ce n'est pas juste une collection de timbres, c'est aussi toutes les relations entre espèces. Et voilà, typiquement, une chose qui m'émerveille depuis quelques années, c'est que vous prenez n'importe quelle espèce de plante et il y a au moins 3 ou 4 espèces associés à cette plante, que ce soit des mouches qui creusent des galeries dans les feuilles ou les pollinisateurs ou d'autres qui viennent la brouter. Certains sont spécialistes, d'autres sont opportunistes, donc vont sur plusieurs plantes. Et petit à petit, on sent le tissu, on sent la toile, ce qu'on appelle en travail qui réunit la toile du vivant. Et là, ça devient fabuleux. Et puis, il y a aussi simplement des émerveillements esthétiques. Moi, maintenant, de plus en plus, je suis sensible au merveilleux qu'est le travail d'une feuille. Le biomimétisme m'y a aidé d'ailleurs. Ce qu'une feuille sait faire et que nous on est incapable de faire, c'est juste incroyable. Mais en plus, une feuille, vous voyez comme c'est beau, quoi. Vous promenez, alors maintenant évidemment c'est la saison facile avec l'automne, mais même, enfin, moi franchement, je ne sais pas nommer une saison que je n'aime pas à ce niveau-là, quoi. Et maintenant, chaque fois que je rentre dans un sous-bois avec ces lumières modifiées profondément par le vivant et en même temps qui sont absorbées par le vivant et qui fait qu'on a tous et de quoi respirer et de quoi manger, c'est un émerveillement qui peut venir comme ça, pings, à la fois sur commande, je peux presque dire, mais qui très souvent me prend de court aussi. Et ça, c'est effectivement des moments de joie qui peuvent s'intercaler entre, j'ai envie de dire, toutes mes séances de lecture quasiment quotidiennes, des litanies de ce qui est en train de partir, quoi. Des agressions continuelles qu'on inflige, qu'on s'inflige à nous, qu'on inflige au tissu du vivant. Mais en même temps, le tissu du vivant, il est toujours là, il lutte pied à pied et à chaque seconde, il fait sa part de boulot, de suivre son élan du vivant profond qui nous permet à nous encore de rester vivants tous ensemble sur cette terre dans l'état où elle est.
Si. Ouais, petit récit de vie aussi. Enfin, la première fois que j'ai fait le TQR, on nous avait invités à entrer dans la forêt en étant accueillis par la forêt. Et pour moi, ça a été une très, très grande expérience. Et du coup, c'est toujours ce que j'invite les étudiants à vivre, ce même renversement de perspective, plutôt que d'être le dominateur, celui qui regarde la forêt et qui se pose comme celui qui est au centre de la forêt, d'être reçu par la forêt et d'être l'étranger dans cette forêt et que chacun des arbres peut nous regarder en nous disant « Mais qui es-tu, toi, l'étranger chez nous ?» Pour moi, ça a été aussi un élément très fort d'humilité et de décentrement. On parle beaucoup d'anthropocentrisme dans le TQR. D'apprendre à se décentrer, c'est aussi d'apprendre donc cette humilité et puis de voir que cette toile du vivant, nous ne sommes qu'un élément de cette toile du vivant. Mais j'utilise cet exemple aussi volontairement parce que maintenant, j'aimerais parler de la question du masculin-féminin. L'homme, et là je dis l'homme, les hommes masculins, a cette propension peut-être à être très dominateur justement, à être très dans le contrôle ou dans une manière, je sais pas comment il faut dire, mais manquant de respect, manquant d'humilité avec ce qui l'entoure. Et l'écoféminisme, ce qu'il nous montre, c'est justement ce qu'on a fait à la Terre comme ce qu'on fait aux femmes, c'est deux versants d'un même problème, enfin de même viol, si je peux utiliser ce mot violent. Et du coup, j'aimerais t'entendre là sur, je sais que tu es très très sensible à cette question, à ce réajustement entre le masculin et le féminin, et comment toi dans ta vie, tu essaies justement de contrer cette manière contemporaine qu'on a, très patriarcale, d'avancer dans le monde pour remettre en équilibre en toi le masculin et le féminin. Je ne sais pas si je m'exprime bien en le disant comme ça.
En tout cas, moi, je vois où tu veux en venir. Oui, moi, je dirais effectivement, ça fait déjà plusieurs années qu'en tournant autour de cette question des racines de notre déconnexion, qu'est-ce qui a fait qu'on puisse se déconnecter si fort en tant que culture ? Qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Alors, on peut en pointer pas mal, mais moi, j'ai aussi maintenant la sensation avec les écoféministes que 10 000 ans de patriarcat, il faut quand même voir que dans nos contrées, si on fait la prolongation du croissant fertile, on en est là, ça fait quand même 10 000 ans de patriarcat. C'est quand même une culture qui s'est bien installée. Alors, je rappelle que 10 000 ans sur 300 000 ans, ce n'est pas majoritaire et que ça débat toujours chez les préhistoriens pour savoir exactement ce qui s'est passé avant, si ce n'est qu'on sait qu'on est passé avant au moins par des phases longues de culture qui étaient plutôt tournées sur la déesse-mère. À un moment, vraisemblablement, alors il y a pas mal de supputations là-dedans, on ne peut évidemment pas demander aux gens qui étaient là ce qu'ils en pensaient exactement, mais une des supputations qu'on fait, c'est que pendant longtemps, les humains, donc hommes et femmes, ne comprenaient pas nécessairement le rôle de l'homme dans la procréation. Par contre, le rôle de la femme dans la procréation, ça c'était quand même un peu difficile de le contester, d'où la place qu'avait, d'un point de vue, spirituel et pas seulement et culturel, le féminin dans ces sociétés. Alors, ce qui est clair, c'est que l'intuition géniale, effectivement, des écoféministes, qui est de rapprocher le viol des femmes du viol de la terre, sur fond d'une culture qui a quand même relégué très longtemps, et les femmes l'ont mal vécu d'ailleurs, et certaines le vivent mal encore aujourd'hui, les femmes dans le volet le plus nature, alors que les hommes, eux, étaient porteurs de la culture, hein, d'où certains qui votaient et d'autres qui ne votaient pas, et certains qui avaient des comptes en banque et d'autres qui n'en avaient pas, dans les formes les plus extrêmes et très récentes que ça a connu chez nous. Et je dirais que maintenant, maintenant, moi, je vais à la rencontre de ça. Je dirais que la façon la plus concrète que j'ai maintenant de re-rentrer là-dedans, c'est tout simplement de commencer à me l'appliquer à moi-même. Parce que j'ai même réalisé que j'ai parlé d'écoféminisme pendant un certain temps, où j'en parlais tellement et je passais tellement de temps à écrire mes bouquins que pendant ce temps, je laissais ma compagne toute seule, y compris accueillir notre petit bout qui a 3 ans aujourd'hui. Donc là, je dis depuis quelques mois, j'essaie de dire, et je le dis pour m'exposer à ce qu'on me demande comment ça marche, d'être devenu papa au foyer à mi-temps. Ça, c'est pour moi le premier rééquilibrage très, très concret. Mais sinon, j'avais envie de citer deux traits en particulier qui me paraissent importants. Le premier, c'est la place du prendre soin. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si on doit attribuer des étiquettes féminines ou masculines à certains traits comme ça. Moi, je vais dire que personnellement, ayant vu plusieurs jeunes femmes devenir des mamans, pour moi, le prendre soin, c'est quand même d'abord un truc qui sort du féminin. Et donc, le prendre soin, j'ai une amie qui s'appelle Marine Simon, qui dit dans un bouquin qu'elle va bientôt sortir d'ailleurs, ça fait 10 000 ans, donc depuis le début du patriarcat, qu'on peut opposer le prendre soin, qui est le pôle féminin, pas seulement des femmes, hein, je précise bien, le pôle féminin, du pôle masculin, qui est obtenir des résultats. Et ça fait 10 000 ans que le obtenir des résultats a priorité et a donné les grandes civilisations, les grands empires et les grandes multinationales. Et le prendre soin, depuis 10 000 ans, c'est réparer les dégâts du obtenir des résultats. Et il serait temps que ça s'arrête. Et il serait temps maintenant que le prendre soin reprenne la priorité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et le prendre soin, on peut de nouveau à ce moment-là, comme dans le travail qui relie, le décliner entre prendre soin de soi, qui est un bon point de départ, prendre soin des autres humains et prendre soin des autres qu'humains et de la Terre. Et avec ça, ça nous fait déjà, comme diraient certains, un vaste programme, parce qu'on est quand même exactement en train de faire l'inverse, et on est quand même dans une société où prendre soin, on a le droit de le faire, mais si possible, on ne va pas trop vous payer pour ça. Par contre, obtenir des résultats, ça, pas de problème. Et prendre soin, on est presque à devoir s'excuser pour ça. Donc ça, c'est un premier axe sur lequel je voulais insister. Le deuxième axe, c'est l'axe entre le rationnel et l'intuition. Alors là, classiquement aussi, l'intuition, on l'attribue plutôt au pôle féminin et le rationnel plutôt au pôle masculin. L'idée, c'est, pour l'instant, on est dans une culture où si vous avez une intuition, si vous voulez vendre, entre guillemets, votre intuition, vous allez chercher des publications scientifiques, on l'a même fait, hein, nous, avec Comment tout peut s'effondrer, hein, vous allez chercher des publications scientifiques pour pouvoir dire que vous appuyez sur du rationnel pour valider votre intuition. Il y a de plus en plus de femmes, singulièrement, qui proposent de faire l'inverse, de dire, quand on voit à quoi le rationnel nous a mené, ça vaut peut-être la peine parfois de partir, de quand on s'apprête à prendre une décision rationnelle, de prendre un moment de connexion à son intuition et de se dire, est-ce que c'est une si bonne décision que ça ? Et moi, je prends souvent la courbe la courbe de la fin du pétrole, mais qui est la fin de tout. Quand vous voyez l'exploitation des ressources naturelles que l'on fait actuellement, tout ça, ça a été basé sur du rationnel et vous voyez où ça nous a mené. Donc là, le rationnel, pour moi, n'a pas complètement fait la démonstration que quand il fonctionnait tout seul, ça suffisait. Et quand vous voyez toutes les courbes exponentielles qui nous annoncent l'effondrement, il ne faut pas être mathématicien pour comprendre. Un peu d'intuition, c'est plus à l'intuition qu'on s'en vient. Bon, oui, là, il y a un truc qui ne va pas aller. Il va falloir faire autrement. Donc ça, c'est, je dirais, deux des axes, mais il y en a d'autres, hein, autour du masculin-féminin. Et donc, voilà, j'essaye aussi maintenant de me tourner vers mon intuition quand j'ai des décisions à prendre. Maintenant, de plus en plus, quand on, par exemple, un des sports, je trouve, qui est difficile dans notre société, c'est d'apprendre à dire non. Eh bien, apprendre à dire non, j'essaye maintenant de dire non beaucoup plus en me basant sur mon intuition que sur mon rationnel. Ça m'évite comme ça d'ailleurs de devoir me justifier avec du rationnel, justement, et te dire, ben non, je le sens pas. Hein, cette expression-là, on la connaît. Eh ben, le je le sens pas, ça a autant de droit que non, ça n'est pas rationnel.
Très, très intéressant. Si je peux me permettre, on a fixé le rendez-vous de ce Thinker Zoom non pas à 8h, mais 8h30, précisément pour te permettre d'être père jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au coucher. Voilà. Maintenant, justement, tu as un petit. Mm-hmm. Alors qu'on parle de collapsologie, d'effondrement, Qu'est-ce qui t'a donné envie de quand même, malgré tout ce qu'on peut entendre et malgré cet avenir si incertain qui est devant nous, qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un enfant? Enfin, un troisième enfant, s'il te
Ouais. Oui, en plus, oui, en plus,
plaît.
un troisième enfant. Hein. Donc, en plus, là, moi, au niveau
Ouais.
démographie, je suis mal parti. Oui, en fait, enfin, pour moi, c'est une question qui est importante, justement, parce que, comme tu l'as mentionné au tout début de l'intervention, c'est que, enfin, moi, je suis très touché d'entendre des jeunes, alors, non pas qui se posent la question, je trouve que la question mérite d'être posée, mais y en sont déjà à la réponse. Et j'entends notamment maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se stérilisent par peur d'avoir des enfants. Et ça me fait toujours vraiment une torsion dans le ventre d'entendre ça. Moi, fondamentalement, je trouve que, enfin, juste parlant de ce qui est mon expérience, j'ai juste voulu suivre mon élan de vivant. Mais je pense que ça part aussi fondamentalement de cette confiance dans le vivant. Simplement parce que moi, l'effondrement, je ne le vois vraiment pas comme la fin du monde. Je la vois vraiment, mais Pablo et Raphaël aussi. D'ailleurs, Pablo et Raphaël ont eux aussi fait des enfants tout en écrivant ces bouquins-là. Je pense que fondamentalement, nous, on le voit comme des biologistes regardent une forêt qui brûle. Une forêt, elle brûle et puis après, ça repousse derrière, sauf incendie majeur sur des millions d'hectares pendant les changements climatiques. Mais en temps normal, une forêt qui brûle, ça repousse derrière. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Donc, il y a une espèce de confiance innée que même si effectivement nous allons vers des temps compliqués et je peux dire difficiles, vraisemblablement difficiles, je préfère d'ailleurs les voir comme difficiles et avoir des bonnes surprises éventuellement. C'est pas pour ça que le vivant doit s'arrêter. Et donc, pour moi, c'est pas une question de me dire, oui, je vais faire des enfants pour que ça continue. C'est juste un élan. C'est un élan vraiment fondamental. C'est un élan du vivant, mais qui est basé aussi, d'ailleurs, sur mon expérience de père avec mes deux grands qui ont maintenant 21 et 23 ans, qui, eux, je dirais, ont grandi avec l'effondrement à la maison. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que moi, je découvrais, j'explorais ces idées-là, notamment d'ailleurs avec Raphaël et Pablo. Ben, ils connaissent bien Raphaël et Pablo, évidemment. Ils les ont vus moult fois. Et tout ça s'est construit, y compris à travers mes moments difficiles, mes moments d'éco-anxiété, pour les appeler de ce monde familier. J'ai aussi des moments vraiment de colère, de tristesse, de peur. J'en ai encore d'ailleurs, hein, mais c'est beaucoup moins aigu. Et surtout, maintenant, je les connais, je sais comment les accueillir. En tout cas plus, et de voir comment eux ont pu vivre avec ça et comment ils vivent avec ça aujourd'hui, avec d'ailleurs aussi les moments difficiles que ça leur crée, mais comme toute la génération Greta Thunberg, j'ai envie de dire, mais ils sont là, quoi, et ça les rend vivants, et d'une certaine façon, on est vivants ensemble, peut-être de façon encore plus forte. Et alors, je voulais aller un pas plus loin, c'est que moi, je pense, alors là, ça nous amène encore dans d'autres sphères qui sont des sphères de croyance. Je dirais à la fois plus spirituel et plus intime, c'est que moi, je crois fondamentalement que chacun d'entre nous ne vient pas sur Terre par hasard. Je pense alors venir sur Terre, c'est une drôle d'expression, mais je pense qu'on s'incarne chacun pour quelque chose, et je crois profondément que les enfants qui arrivent maintenant n'ont pas la même sensibilité et n'ont pas la même vibration et n'ont pas le même travail que ceux qui sont venus il y a 20 ans, il y a 40 ans ou il y a 60 ans. Ce n'est pas la question qu'ils sont mieux ou moins bien, c'est juste que je pense qu'ils viennent pour quelque chose. Et si moi, je me sens disponible à les inviter et à les accueillir, et surtout que j'en ai envie, et c'était ça fondamentalement, ben je ne vois pas pourquoi je m'en priverais, quoi. D'autant que le raisonnement, je termine quand même avec ça, c'est que, en gros, si, est-ce que moi, je dois arrêter de faire des enfants pour que d'autres puissent continuer à prendre Ryanair pour aller faire des week-ends de solde à Milan? C'est une motivation assez légère pour moi, quoi. Donc, tant qu'à faire, je préfère accueillir des enfants et y compris, du coup, les accueillir avec tout ce que je peux leur transmettre d'imparfait et de partiel et de partial, mais en tout cas dans un élan d'accueil du vivant et d'amour du vivant, ben, je trouve que c'est aussi une façon pour moi de faire ma part.
Merci. Mais tu m'ouvres complètement la porte pour le dernier petit chapitre que je voulais aborder avec toi avant d'ouvrir à l'ensemble du groupe, la question des croyances. J'aime beaucoup citer cette phrase de Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine. Mais du coup, toi en tant que biologiste, toi en tant que, ben voilà, tout à l'heure tu parlais d'intuition, mais il y a toute la question quand même du rationnel. Les croyances, avec les lumières, on les met de côté, on se dit mais non, c'est pas rationnel, ou alors qu'on a tous des croyances d'un point de vue philosophique, on a tous un point de départ, une vision du monde. Mais comment du coup intégrer cette vision du monde, ou comment, quelle vision du monde toi tu pour quelle vision du monde optes-tu ? Avec quelle croyance, finalement, tu construis ton monde pour justement, là encore, retrouver cette joie qu'on évoque un peu à côté, mais quand même depuis le début de ce dialogue. Ouais.
Alors, je sais pas d'ailleurs si c'est pour retrouver la joie ou si un des résultats est que je retrouve de la joie aussi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, c'est clair que tout en étant biologiste, ça fait des années, et je dirais même avant l'effondrement, qu'à côté de ma vie de biologiste, j'ai aussi ma vie privée de grand lecteur de tas de bouquins et puis de commencer à rentrer dans de l'expérience, notamment avec le travail qui relie, mais pas seulement. Moi, la phrase de Teilhard de Chardin que tu viens de donner, moi, j'y adhère. C'est-à-dire que je pense que effectivement nous sommes chacun maintenant dans un moment d'incarnation. Moi je le vois dans mes mots tels que je le retraduis de ce que je comprends et de ce que plus ou moins je pressens, mais surtout de ce que je comprends. Je dois dire que pour l'instant j'en suis essentiellement dans une compréhension, comme s'il y avait une espèce de conscience, enfin qu'il y a une énorme conscience qui est autour de nous et pas seulement sur le plan matériel, hein, donc ce n'est pas juste la troisième entité énergie, matière, information, c'est un peu plus subtil que ça, et qui pulse et qui régulièrement, dans des, je vais dire de façon un peu froide, là, dans des sous-unités, s'incarne dans des consciences, et pas seulement d'ailleurs des consciences humaines. Teilhard de Chardin, il est quand même un peu déformé par sa christianité, il ne voit ça que chez les humains. Moi, personnellement, comme biologiste, je ne sais pas m'empêcher de me poser la question, d'autant que j'y suis venu notamment par des rencontres avec des dauphins qui étaient des dauphins ambassadeurs, comme on dit, des dauphins solitaires qui viennent au contact des humains et qui m'ont marqué par leur personnalité. C'est ça qui m'a frappé, et non seulement par leur personnalité, mais par ce qu'ils m'ont appris en tant qu'individu profondément individué et que je savais et que j'ai senti, moi, comme des maîtres, pour moi en tout cas. Et donc, pour moi, ça s'étend au-delà des humains. Et la question est d'ailleurs maintenant posée de plus en plus, y compris par les biologistes, mais la biologiste qui est sans doute la plus en pointe là-dessus, elle fait aussi du chamanisme, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, sur la conscience des plantes et sur comment, du coup, moi, j'ai envie de dire, bon, mais dans ces pulsions d'incarnation et de retour au grand tout, appelons-les comme ça, à mon avis, tout le monde est mêlé là-dedans. Et bien entendu, ça suppose aussi, enfin, bien entendu, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça pour moi. Hein, on se rappelle qu'on est quand même qu'une petite planète au milieu d'une grosse galaxie et qu'il y a des milliards de galaxies autour de nous. Que moi, l'idée que nous serions les seuls êtres vivants et les seuls êtres conscients de l'univers, pour moi, c'est même pas imaginable. Quoi. Voilà. Donc, on est une petite expérience en cours par là, il y en a d'autres ailleurs. Et l'intérêt de ça, ce n'est certainement pas de relativiser ce qui nous arrive, parce que par contre, moi j'estime que quand je suis dans mon incarnation, c'est-à-dire maintenant, mon boulot d'être incarné, c'est d'être incarné, c'est pas juste d'attendre de ne plus l'être, c'est vraiment d'être incarné et de vivre ce que j'ai à vivre dans cette incarnation. Mais par contre, c'est sûr que ça donne un, j'ai envie de dire bêtement, un avenir, quoi. Ça veut dire que moi je n'ai pas, ça donne déjà un rapport fondamentalement différent à la mort. Et moi, je me dis souvent que je comprends que pour des gens qui n'ont pas, qui ont, je dirais, la vision la plus classique, en tout cas en France, je vais dire, parlant depuis la Belgique, en tout cas la version officielle.
Sachant que tu t'adresses beaucoup à des Suisses.
Bien sûr. Ouais. Mais la version laïque, en tout cas classique, qui est de dire il n'y a rien derrière, quoi, que quand on meurt, c'est terminé. Ben, je comprends que du coup, l'effondrement, ça n'a pas le même effet psychologique que quand on se dit, bon, ok, on est dans... on est dans une aventure, on est, enfin une aventure ou une initiation, on est dans un parcours personnel qui va après revenir au grand tout et puis qui va se réincarner ailleurs sur Terre ou ailleurs, complètement ailleurs, sous une autre forme, quelle qu'elle soit, ben, voilà, ça donne un autre horizon et un autre contexte et ça me permet certainement de le vivre différemment et du coup de le vivre à fond. De le vivre en n'étant pas conditionné. Alors, je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas du tout peur de la mort et certainement pas non plus pas peur de la souffrance, ça c'est autre chose. Je pense que j'ai surtout d'ailleurs peur de la mort de mes proches autour de moi, avant moi. Je pense que c'est ça qui peut me faire peur, mais ça m'a quand même fait descendre. Enfin, cette peur est quand même beaucoup, beaucoup plus faible que ce qu'elle aurait pu être il y a 20 ans quand j'en étais pas encore à ce stade-là, et ça me permet de vivre ça de façon beaucoup plus détendue et de revenir à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'on est dans une période absolument passionnante et dans une période où du coup et ça j'ai peut-être envie de terminer là-dessus où finalement les choses dans lesquelles je m'investis, les projets dans lesquels je m'investis à la fois au niveau personnel et collectif. Et je ne dis pas au niveau professionnel et familial d'ailleurs, mais personnel et collectif, tout ça est bien mélangé, sont les choses qui me semblent justes, qui fondamentalement me semblent justes, et pas avec une obligation de résultat pour être content. Donc, ce qui me met en joie aujourd'hui, c'est ce sur quoi je travaille. Ce n'est pas le résultat hypothétique auquel ça peut conduire. Évidemment que le résultat, je vise quand même quelque chose, mais ce n'est plus ça qui me... C'est plus ça ma boussole principale. Ma boussole, c'est de sentir au jour le jour, et ça revient à l'intuition, hein, on y revient, que ce que je fais est juste. Et une des boussoles, d'ailleurs, c'est la joie. Si ce que je fais m'emmerde, c'est que je ne suis pas à ma place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit faire ça, d'ailleurs. Ça veut dire que ce n'est pas mon travail à moi et ce n'est pas mon rôle à moi. Et ce n'est pas juste pour ne faire que des trucs rigolos et qui me plaisent. Hein, mais oui, qui me plaisent, oui. Qui me donnent de la joie. Si ça ne me donne pas de la joie, je me pose des questions.
Merci. J'aurais encore évidemment plusieurs questions, à la fois pour faire suite à ce que tu viens de dire et puis par rapport à ce qu'on a exploré avant. Mais évidemment, je veux vous laisser la parole. Je vois déjà une première question de tout à l'heure de Damien qui demandait s'il n'y avait pas de connexion entre le masculin et le prendre soin, mais ne répond pas tout de suite, Gauthier. Est-ce que, justement... Enfin, la première question, des fois, c'est un peu toujours difficile de casser la glace, mais est-ce qu'il y a une ou deux autres questions autour du masculin-féminin qui pourraient, qui ont été évoquées, enfin, que vous pouvez avoir en ce moment? Je suis obligé d'aller sur deux écrans. On est nombreux, donc je dois aller sur les deux, mais... Si vous avez si vous voulez poser une question, vous levez la main. Ou Gauthier, alors je te laisse répondre à cette première question de Damien, si la connexion entre masculin et prendre soin ne peut pas.
Oui, évidemment qu'il y a des connexions entre le prendre soin et le masculin. Donc d'abord, je voudrais réinsister sur le fait que pour moi, nous avons tous le pôle féminin et le pôle masculin. Ce qu'il faut voir, c'est que si obtenir des résultats se faisait de façon justement équilibrée avec le prendre soin, et on a chacun ce potentiel en nous de faire l'équilibre entre le prendre soin et l'obtenir des résultats, mais à ce moment-là, l'obtenir des résultats lui-même peut prendre soin. Si vous, je vais prendre un exemple très, très trivial, si vous commencez maintenant à cultiver votre jardin en permaculture, vous allez le faire aussi pour obtenir des résultats, mais c'est obtenir des résultats va prendre soin d'abord de vous, de ce que vous mangez, mais va prendre soin de tout l'écosystème qui vous entoure, ou en tout cas va rester compatible avec l'écosystème qui vous entoure, ce qui est déjà pas mal. Donc oui, et le souvent le patriarcat, c'est pas seulement que le féminin a été éclipsé et qu'il y avait plus que le masculin, c'est surtout que le masculin, du coup, dans sa domination, est devenu une caricature du masculin. Moi, j'en profite pour signaler, parce que c'est un sujet qui est souvent un petit peu aussi controversé. Pablo et moi, on a tous les deux fait une initiation masculine à Mankind Project, où on apprend fondamentalement à remettre son masculin à la bonne place, c'est-à-dire et notamment à le remettre au service un masculin bien placé, de même qu'un féminin bien placé, c'est au service de votre communauté, du vivant qui vous entoure. Et donc, il y a aussi, bien sûr, une dimension de prendre soin. Simplement, ça va se marquer différemment. Par exemple, une autre différence qu'on peut avoir entre le pôle féminin et le pôle masculin, mais qui tourne aussi autour du prendre soin, c'est sur l'inclusivité ou l'exclusivité. Être inclusif, ce serait plutôt féminin, mais être exclusif, ça n'est pas seulement mauvais. Être exclusif, c'est aussi poser une membrane, c'est une expression qu'on emploie beaucoup dans le travail qui relie, et à un moment donné, dire, voilà, ce dont moi je suis en charge et dont je me sens responsable, c'est cette communauté-là, et par moment, il faut pouvoir dire non. Alors, si on dit non en coupant la tête, ça c'est la caricature du masculin, si on dit non à un non bien posé, bien clair, qui dit non, ça c'est pas juste, et tu ne fais pas ça parce que ça touche à mon territoire et que du coup, ça ne prend pas soin du vivant dont j'ai la responsabilité. Voilà, ça, c'est du masculin qui prend soin. Je ne sais pas si ça répond.
Oui, je crois. Après, je pense qu'il y a toujours, enfin, il y a peut-être un piège à vouloir assigner au masculin ou ou au féminin. Des fois, enfin, je parlais avec une amie très très féministe qui me disait, mais Xavier, pourquoi, voilà, juste on peut parler de prendre soin sans dire que ce soit l'un ou l'autre, mais juste de la réalité en tant que telle. Mais
ouais, je glisse même un truc à ce niveau-là. Ouais. Alors, ce qu'on fait quand on veut être politiquement correct, nous maintenant on dit yin et yang.
Ouais.
Ce qui est une façon d'esquiver, parce que quand même après, si vous demandez ce que c'est la définition du yin et du yang, mais moi je voudrais quand même dire une chose fondamentale, c'est que, enfin, qui moi m'est fondamentale personnellement, même si ça reste peut-être de la rhétorique, mais étant papa déjà trois fois et ayant trois fois vu ce que c'était qu'une maman qui attend son bébé puis qui accouche, surtout si elle peut accoucher de façon je dirais respectueuse, et ensuite qui allaite et qui prend soin. Voilà, se prendre soin-là, même si j'étais en même temps à ses côtés et que j'ai pris soin, bien sûr, pendant tout ce temps-là, il y a un fondamental du prendre soin qui est quand même féminin. Alors maintenant, on va me dire que toutes les femmes n'ont pas des bébés, bien sûr, mais toutes les femmes sont quand même équipées pour en avoir. Et moi, pas. J'ai beau faire, je n'y suis toujours pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des déterminants. Et autant je trouve qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans les déterminants biologiques à 100%, autant pour moi, les déterminants culturels à 100% sont un autre extrême qui ne me va pas non plus. Et quelque part, on est entre les deux. Et d'ailleurs, de plus en plus, quand on rentre dans cette discussion, on n'est pas en train de faire des pourcentages entre ce qui est nature et culture. On est en train de dire qu'on est une espèce où c'est profondément complètement c'est complètement lié et où les deux fonctionnent ensemble en permanence et où ça sert à rien d'essayer de les délier, mais par contre d'admettre qu'il y a des choses qui sont liées à ce que nous sommes dans le corps et il y a des choses qui sont liées à ce que nous sommes dans notre culture.
Et c'est du et. Merci. Je voudrais pas trop polariser, être dans cette discussion masculin-féminin, même si c'est fondamental, mais il y a Sarah, enfin d'abord je voyais donc Clément qui disait l'état dans lequel mon petit frère bazarde les pièces dans lesquelles il rentre, je dirais plutôt non, mais je ne sais pas à quoi tu faisais référence, Clément, quel était le sujet de la discussion à ce moment-là, si tu veux prendre la parole. Oui.
Juste une plaisanterie sur la question d'avant. Y a-t-il une connexion entre masculin et prendre soin, bah, quand je vois l'état dans lequel mon petit
frère. Ah, d'accord. Oui. Ok, ouais. Merci.
Là, c'est évidemment difficile de démêler le culturel.
Oui. Et donc, Sarah, la spiritualité que tu décris, Gauthier, tu te l'es construite progressivement ou tu partais d'où finalement spirituellement?
Oui, ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai une origine historique catholique, c'est-à-dire que mes parents sont tous les deux d'éducation catholique forte. Par contre, ça a très vite dérivé chez nous parce que, pour ne rien vous cacher, parce que mon père a eu des expériences ou en tout cas été témoin d'actes pédophiles chez un prêtre, ce qui l'a complètement dégoûté. Et donc, il a fait une rupture assez brutale par rapport à sa culture d'origine, ce qui fait que nous avons été baptisés techniquement, mais à peu près, ça s'est à peu près arrêté à ça. Alors, j'ai quand même été dans des écoles catholiques, mais des écoles catholiques en Belgique, ça ne veut plus dire grand-chose, si ce n'est qu'on avait encore un prof de religion. Mais voilà. Mais ensuite, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que je peux dire que je suis passé par une phase assez réductionniste, presque laïque, pendant mes études universitaires, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, mes études universitaires, c'est-à-dire pendant ma déformation universitaire. Et puis, petit à petit, et notamment par le biais, comme je disais tout à l'heure, des cétacés. J'ai aussi une période, on n'a pas trop parlé avec Xavier, mais j'ai une période où je me suis beaucoup rapproché des dauphins et des baleines. Et c'est notamment par là et par toute une série de lectures et puis d'expériences, un peu d'expérience de chamanisme un peu, et puis de comprendre de plus en plus que mon lien avec la nature, qui était, comme j'ai dit, un lien assez rationnel au départ, est devenu autre chose. Et voilà, et donc ça a pris le temps. Et je dirais que ça continue à évoluer, mais ça fait déjà maintenant longtemps que, voilà, que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'aurais pu probablement expliquer à peu près la même chose il y a 10 ans, même si sans doute il y a 10 ans, j'aurais moins osé le faire. Et ça, c'est autre chose.
Merci. Je précise juste que Sarah n'est pas Sarah et qu'on retrouve le féminin masculin. Voilà. Sarah, c'est Simon. Mais bonjour à toi, Simon. Mishka qui demande, après de nombreuses années de pratique de biomimétisme, est-ce que cela constitue pour toi une piste d'action pertinente au regard des enjeux de collapse? Et j'avoue que j'étais assez curieux, en effet, cette société où tu as été consultant et tout ça, ça marche bien? Ça, on n'en a jamais vraiment parlé.
Alors, Green Loop existe. Moi, je suis sorti de Green Loop depuis déjà un moment. Notamment pour pouvoir écrire mon bouquin sur le biomimétisme en toute liberté sans mettre Green Loop dans de mauvais draps, parce que j'avais d'emblée une vision assez radicale, c'est-à-dire que quand j'ai écrit sur le biomimétisme, c'était un peu 10 ans de bilan sur le biomimétisme avec déjà une pointe, et ça répond en partie à la question que me pose Mishka, hein, on se connaît bien Mishka, notamment autour du biomimétisme, de désenchantement, parce que moi j'avais vu le biomimétisme, ça avait été un petit peu ma dernière planche de salut pour espérer trouver une espèce de voie médiane qui nous permette en gros de ne pas complètement démanteler la société, la civilisation thermo-industrielle, en la naturalisant justement, en y faisant entrer massivement ce qu'on appelle en biomimétisme, et Mishka connaît ça très bien, les principes du vivant, c'est-à-dire toutes les règles de fonctionnement des écosystèmes. Alors, il faut voir qu'actuellement, la plupart des exemples biomimétiques, et quand je dis la plupart, moi je considère à peu près 98%, ne suivent pas plus que 3, 4, 5 principes du vivant, là où il faudrait en suivre une quinzaine, suivant les différentes définitions qu'on a des principes du vivant, et qu'il y en a toute une série de fondamentaux que l'on ne suit pratiquement pas. Pour moi, un des rares systèmes qui passe à travers ça et qui n'a pas attendu le biomimétisme pour arriver.
Je peux juste donner des exemples parce que ça reste très.
Les principes du vivant, c'est ne pas produire de toxiques persistants, donc qui s'accumulent dans. S'appuyer sur le local, c'est l'économie circulaire, donc ne pas produire de déchets, enfin pas l'économie circulaire parce que celle-là n'est pas encore très douée, mais ne pas produire de déchets, tout déchet est une ressource. C'est une utilisation optimale de l'énergie branchée sur le soleil à 99%. Il y a l'entraide est un des principes du vivant, la diversité, etc., etc. Donc ça, c'est une partie des principes du vivant, il y en a plus. Et ce que je suis forcé de constater, c'est que dans la plupart des exemples du biomimétisme, c'est devenu, comme très souvent en développement durable, de la peinture verte. C'est devenu le sport de pouvoir dire « oui, je me suis inspiré de tel être vivant pour améliorer ». Et oui, pour améliorer, mais souvent on améliore à la marge. Et du coup, on retombe dans l'effet rebond. Et on va pas très loin avec ça. Et donc, le biomimétisme, par contre, pour moi, est devenu un cheval de Troie. Moi, je l'appelle comme ça. Je viens encore de sortir un bouquin là, dans le cadre d'une expo qu'on fait à la Villette sur le biomimétisme, un cheval de Troie pour justement les gens qui ont du mal à prendre le vivant au sérieux, et notamment un certain public, excusez-moi de tomber dans les caricatures, mais je peux y aller, que sont les ingénieurs, comme je suis ingénieur moi-même, je peux le dire, qui ont du mal à prendre le vivant au sérieux. Et quand les ingénieurs font du biomimétisme et qu'ils commencent à regarder comment fonctionne un arbre ou une éponge siliceuse qui fait de la fibre de verre à 2 degrés au lieu de 800 degrés, etc., eh bien, ils changent de position. Ils regardent le vivant d'abord comme une boîte à outils, c'est encore un peu réductionniste, mais c'est déjà ça, et ensuite, ils commencent vraiment à rentrer dans l'humilité. Et ça, Enfin, moi, je me souviens d'une des conférences que j'ai faites sur le biomimétisme à Orange. Hein, donc, oui, c'était un public dur. Et où à la fin, il y a un des stagiaires, singulièrement d'Orange, qui m'a dit « En fait, votre truc, c'est une philosophie. C'est plus une philosophie qu'une approche technologique. » Ah, ok, ça va. Bon, c'est bon, c'est passé, quoi. J'aurais envie de lui dire, ne le dites pas trop fort, parce que sinon, ça va tout déconsidérer. Mais oui, c'est ça. Là, en ça, le biomimétisme reste intéressant pour un certain public. Après, il y a tout un public qui n'a pas du tout besoin du biomimétisme pour comprendre à quel point la reconnexion avec le vivant est une clé fondamentale pour les bascules dont on a besoin, non pas pour éviter l'effondrement, mais pour bien vivre l'effondrement et savoir ce qu'on a à préparer après.
Je lis surtout les questions dans le fil de discussion, mais soyez pas gênés de lever la main et de prendre la parole. Enseignement, on dit qu'on attend environ 7 secondes que quelqu'un...
C'est bon,
Antoine, ouais. Antoine, c'est tu te grattes l'oreille ou ouais. Damien, ouais, Damien.
J'avais une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de l'effondrement et à théoriser ce concept-là? Et genre, ça doit être un peu déprimant quand même, non? Genre, en tout cas au début, du coup, qu'est-ce qui vous a permis de continuer?
Oui, ben au début, oui. Au début, c'est sûr. En fait, c'est un peu le constat. Voilà, pendant 20 ans, on travaille sur les questions environnementales, on essaye de réveiller le monde, et puis y compris avec quelque chose quand même d'aussi excitant et d'aussi bien vendeur que le biomimétisme, et puis on se rend compte à la sortie que quand on regarde tous les indicateurs qui sont vraiment les indicateurs importants de où est-ce qu'on va, ben, en fait, on n'a pas changé de trajectoire, quoi. Je cite un chiffre de mémoire qui m'a effaré quand je l'ai découvert. Depuis la conférence de Rio, qui était quand même une des grosses conférences environnementales en 1992, l'humanité a consommé autant de métaux que toute l'humanité avant. Avant, donc les 300 000 ans d'avant. Donc ça veut dire que les prises de conscience environnementales et toutes les tartes à la crème du développement durable et compagnie n'ont rien changé à la trajectoire globale, et n'ont rien changé. Et parfois, on peut se satisfaire qu'en Europe, ça va un peu mieux, mais ça va un peu mieux parce qu'on a délocalisé et les activités polluantes et nos crasses ailleurs. Et donc, c'est chez eux que les courbes flambent encore, quoi. Et donc, moi, c'est ça qui m'a fait me dire, c'est pas tenable. Là, pour le coup, c'est à la fois des mathématiques et de l'intuition. Quand on regarde des courbes qui montent et qui s'accélèrent sans cesse, et puis avec aussi des connaissances, moi, que j'avais par rapport au changement climatique, on sait que des changements climatiques naturels, le vivant sait faire avec, mais pas à la vitesse où on est en train de les imposer maintenant. Et là, on a toujours la brique sur la pédale de l'accélérateur. Donc ça, c'est sur le comment on est arrivé à l'effondrement. Maintenant, comment j'ai pas trop déprimé avec ça? Ben, dans un premier temps, j'ai déprimé sévère, je peux te dire, hein, mais... j'essaie de le cacher, j'essaie de me le cacher à moi dans un premier temps et ensuite de le cacher tout court. Et là, je suis désolé encore de revenir là-dessus, mais c'est le travail qui relie, qui m'a ouvert la porte, qui m'a offert des clés. Hein, j'étais en fait de plus en plus gêné de faire des conférences sur le changement climatique où je montrais à la fin quelques slides sur les maisons solaires et les cargos à voile et les dirigeables. En me disant oui, on a peut-être des solutions, mais j'y croyais pas du tout. Je savais bien qu'il nous fallait des virages beaucoup plus fondamentaux que ça. Et j'ai cherché comment on fait pour vivre avec son désespoir. Et là, je suis tombé sur le travail de Johanna Messi, du travail qui relie, qui est un travail qui se passe toujours, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais qui se passe toujours le long de 4 étapes, qu'un atelier dure 2 heures ou qui dure 3 semaines, c'est un peu les 2 extrêmes connus à l'heure actuelle. Dans tous les cas, on passe par 4 étapes. Et je vais au moins nommer les 2 premières qui vont me permettre de répondre à ta question. La première étape, c'est s'ancrer dans la gratitude. Et ça, ça dit beaucoup sur la joie. Donc, c'est s'ancrer dans la gratitude d'être vivant ensemble, pour le formuler encore différemment. Et c'est toutes des petites pratiques, à la fois tête et corps et collective, pour sentir le bon, en fait, d'être vivant ensemble. Et ça s'apparente à ce que je fais quand je vais dans la forêt et que je regarde les feuilles, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, la deuxième étape, et c'est celle-là qui a été clé pour moi, ça s'appelle « honorer notre peine pour le monde ». Et rien que cette expression-là est sublime, « honorer notre peine pour le monde », c'est reconnaître que le fait que moi, je me sente mal avec le monde qui ne va pas bien, que ce soit les réfugiés syriens ou la forêt amazonienne, est le signe de ma connexion. Donc, c'est le signe que c'est la preuve que l'idée dominante de notre culture, qu'on est tous séparés et que chacun on a notre soi qui s'arrête à notre peau, est complètement réductrice, que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'en fait, ce qui arrive aux autres me touche parce que les autres font aussi partie de moi et vice-versa, bien entendu. Donc ça, c'est un premier message intéressant. Et le deuxième, c'est que quand on fait ça en travail qui relie, donc en fait, on a un rituel particulier que je vais nommer qui s'appelle le mandala de nos vérités, où chacun à son tour, donc on est en cercle, et chacun à son tour, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas ne le font pas, ceux qui veulent rentrent au centre du cercle et utilisent des objets qui sont là pour médier en fait les émotions qui sont difficiles à sortir, parce que dans notre culture c'est difficile à sortir, avec les émotions dominantes dites négatives, douloureuses, que sont la peur, la tristesse, la colère et l'impuissance. Et puis n'importe quel autre. Mais c'est sur ces quatre-là en général qu'on travaille. Et là, j'ai eu l'occasion d'aller déposer ma colère, d'aller sortir ma colère. Et les premières fois, je le disais, je suis en colère. Et puis au bout de 5 fois, je hurlais ma colère en étant contenu par un cercle de gens qui ne sont pas là pour m'écouter, pour me consoler ou discuter et tout, qui sont juste là autour pour me dire « Ok, vas-y, maintenant c'est à toi, exprime ta colère et on te reçoit. » Et ensuite, ça se passe chacun à son tour. Et je peux te dire que le rebond énergétique, Xavier pourra en parler, hein, le rebond énergétique qu'il y a après ce genre de processus, c'est non seulement un rebond énergétique personnel, mais c'est aussi le fait que tu ne te sens pas tout seul. Ça, c'est la même chose avec maintenant les groupes de collapsologie. C'est tout d'un coup, ça te sort de ton isolement, ça te permet de raisonner, et ça, de raisonner au sens RE, hein, donc de raisonner avec d'autres. Hein, souvent, quand certains s'expriment dans le cercle, toi-même, ils appuient sur une corde sensible que tu connais aussi et ça te permet de rentrer en empathie. Et ça crée après aussi des groupes sacrés, d'ailleurs. Ça crée des liens d'une force absolument incroyable. Et ça, c'est vachement important pour pouvoir rebondir. Ce n'est pas juste pour repartir chacun dans son coin en s'étant fait un petit nettoyage émotionnel. C'est en plus repartir avec des liens qu'on active ou pas après, mais des liens et des liens d'investissement après dans tout ce qu'on veut, j'allais dire des projets, mais c'est un mot qui est tout de suite un peu dangereux pour moi, mais en tout cas des liens de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, y compris la prochaine fois qu'on passera par un moment difficile comme ça, qui soit du désespoir ou de la colère ou de la peur ou de la tristesse. Voilà, j'ai fait à la fois long et rapide parce que il y aurait beaucoup à en dire.
Mais c'est important. Et petit coup de pub, du coup, à l'aumônerie, on a proposé déjà 2 fois le travail qui relie. La dernière fois, c'était il y a 1 an. Et on l'a reproposé cet été. Donc, au mois de juillet, on devait avoir un stage pour la communauté unie, le PFL, qui malheureusement, vous l'imaginez, a dû être annulé à cause de notre ami le virus qui nous empêche de faire bien des choses. Mais si vous êtes intéressé, dès qu'on pourra, on va remettre un stage comme ça en Suisse romande. Mais autrement, en dehors de la communauté unie, le PFL et de l'aumônerie, il y en a d'autres qui l'organisent aussi. Je vois un facilitateur, Pascal, qui est parmi nous. Et sinon, il y a un site qui s'appelle travailquirelie.ch qui répertorie tout ce qui se fait en Suisse romande dans ce domaine-là. Donc, soyez surtout pas gênés de vous informer ou autre, je reste à disposition pour en reparler.
Oui, j'en profite pour signaler aussi que, parce que nous, le Covid nous fait nous aussi des problèmes là, pour nos ateliers Trail qui relient, qu'une des formules qui a été lancée pendant le confinement, bon, sachant que je ne connais pas exactement les règles de confinement que vous avez eues en Suisse, mais nous, on avait le droit de sortir, et d'aller s'aérer dans les bois. Et en fait, on a fait ce qu'on a appelé des lucioles. On se faisait des réunions où on gardait bien entendu les distances de sécurité dehors, de surcroît, et on se faisait 4 fois une réunion de 2 heures avec une par semaine, avec chaque fois une étape de la spirale. Je vous ai nommé les 2 premières, je nomme vite les 2 suivantes, mais juste je vais les nommer. C'est changer de regard, la 3e, et aller de l'avant, la 4e. Et on a été étonnés, parce que nous, on était un peu sceptiques sur 4 fois 2 heures pour vivre quelque chose de fort. Mais en fait, surtout en confinement, les temps d'intégration entre les étapes font que quand on arrive une semaine après, on n'a pas fait une semaine de travail qui relie, mais on a fait plus que 2 heures. Quoi. Et on est arrivé à des résultats assez étonnants.
Nicolas, tu veux peut-être parler Nicolas Vessier, tu n'étais pas initiateur d'une luciole comme ça en Suisse romande?
Appuie sur ton micro.
Ouais.
en dessous.
Et puis, si ma mémoire est bonne, c'était avec Luca.
Oui, non, c'est vrai. On a profité en... Nous, on était un petit peu décalés. Je crois que c'était le mois de juin. Nous, on était un petit peu début juillet. On partait dans la forêt de Sauvabelin. On était un groupe de... Ouais, un cercle de 6 personnes. Et puis, c'était l'occasion de parler de notre ressenti face au Covid. Comment est-ce qu'on vivait ces moments-là? Et puis, en fait, ça débouchait sur d'autres questions. Parce que, bon, il y avait aussi des étudiants, étudiantes qui terminaient leurs études. Et c'était un petit peu... C'était l'occasion de partager des anxiétés sur ce qui va venir, tout ça, partager des émotions. Alors, ce n'était pas vraiment le TQR comme Gauthier vient de le décrire. J'en ai fait quelques-uns et j'ai aussi trouvé ça génial. C'était vraiment transformateur. Enfin, c'était puissant. Un, deux, trois jours, un, cinq jours. J'ai plus beaucoup de batterie, alors, et puis je ne peux pas m'en charger si jamais on est coupé. Je suis vraiment désolé. Et voilà, mais c'était intéressant de voir que les témoignages de ces personnes qui disaient que même si c'est court, même si c'était que 2 heures, une fois par semaine, pendant 4 semaines, ben, que ça faisait du bien. Donc, difficile de dire pendant combien de temps ça fait du bien, mais en tout cas, ça donnait aussi à des personnes de refaire du travail qui relie pour les personnes qui en avaient déjà fait, et puis peut-être envie d'aller plus loin pour les personnes qui découvraient ça, ou aussi des fois des questions. C'était l'occasion de parler aussi de ces cercles de femmes, parce qu'il y a aussi des cercles TQR pour les femmes, justement pour travailler un petit peu ce côté féminin, masculin, et des cercles d'hommes. Mais ça, c'est, je ne sais pas si en Suisse, en tout cas en Belgique, Terre Éveil, il y avait aussi l'occasion de faire des cercles d'hommes.
Oui, je vais en profiter là pour ajouter quelque chose, c'est que finalement, ce qu'on vit dans un atelier travail qui relie, c'est 3 des fondamentaux de l'entraide, de ce qu'on dit pour garder l'entraide dans un groupe. Il y a 3 sentiments sur lesquels il faut veiller. C'est les sentiments de confiance, de sécurité et d'équité. Et typiquement, dans les ateliers travail qui relie, et pas seulement bien entendu dans les ateliers travail qui relie, on travaille de facto sur maintenir ces sentiments-là. Et l'étape que je vous ai nommée tout à l'heure, là, le mandala de nos vérités, alors là, c'est un booster de folie sur la question de l'équité, de la sécurité et de la confiance. Quoi. Et du coup, je voudrais dire, en réponse aussi à la question qui m'a été posée tout à l'heure de comment j'ai appris à vivre avec ça, que mon expérience d'initiation masculine a aussi été un gros morceau. Et je me dis, en fait, fondamentalement, pour la même raison. Parce que là aussi, dans les initiations de MKP, et je pense que c'est la même chose, c'est le témoignage que j'en ai du côté féminin, puisque
MKP, Mankind Project.
Mankind Project, où je l'ai mis dans le chat. Ouais. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur permettre un sentiment de sécurité, d'équité et de confiance. Et ça, c'est tout à fait primordial, je pense, dans tout travail collectif à faire. Et moi, j'en tire même une conclusion, c'est qu'aujourd'hui, quand je me lance dans un projet, c'est devenu pour moi un critère. C'est-à-dire, très souvent, on croit que parce qu'on se met ensemble sur un projet, je vais prendre un exemple typique, les habitats groupés, hein, qui sont quand même des projets magnifiques sur le fond, mais bien casse-gueule en termes de facteurs humains. Et je pense que typiquement, ce qu'on ne fait pas assez dans ce genre de projet, c'est une fois qu'on s'est dit « Ok, on va faire un habitat groupé, mais maintenant, travaillons notre entente. » Et moi, pour résumer ce qui moi, me paraît fondamental, travailler notre entente, c'est donner ces sentiments de sécurité, confiance et d'équité. Et un des meilleurs moyens d'y arriver, c'est d'avoir pu partager. C'est une formule un peu courte, hein, mais c'est d'avoir pu partager à la fois ces émerveillements fondamentaux et ces désespoirs fondamentaux. Quand on a déjà partagé ça dans un groupe, on a déjà méchamment solidifié le groupe. Voilà. Et moi, maintenant, dans les projets, on essaie tout de suite d'amener ça le plus vite possible. Et si je ne peux pas l'amener du tout, moi, j'ai même pas envie d'y aller parce que je ne la sens pas, cette sécurité arriver. Quoi. Dès qu'il y a des problèmes qui montent, le fameux PFH, putain de facteur humain, refait éruption et du coup fait des dégâts alors même qu'on s'était ouvert sur une passion commune.
C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est vraiment mettre l'être au-dessus du faire. Avant, de manière un peu hiérarchique, c'est comme, voilà, au-dessus ou en dessous, dans le sens où c'est la base, mais tant qu'il n'y a pas au niveau de l'être cette confiance, cette sécurité, cette équité, faire devient très délicat. Il y a Simon Sarah qui vient de nous lancer un petit paragraphe, mais j'allais juste poser la question, est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, j'ai reçu une question encore sur le biomimétisme pour revenir, mais je ne sais pas si je peux la poser après ou non.
Alors je lis juste Simon, c'est aussi une autre tangente, mais allons-y avec toi, Adrien, et puis on revient à Simon après.
Ok, super. Je voulais revenir au biomimétisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples de biomimétisme qui s'inspirent de trois principes du vivant maximum. Et c'est vrai, j'ai l'impression qu'on rabâche toujours les mêmes exemples du biomimétisme, la peau de requin, etc. Et je trouve ça. En fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples, effectivement, de biomimétisme de bon biomimétisme, je dirais. Et moi-même, là, actuellement, je suis en train d'effectuer mon projet de master à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, qui est un institut de recherche en biologie marine polaire, dans un labo qui s'intéresse à la structure des diatomées. Ouais. Pour innover dans le domaine des structures légères, parce que les diatomées, bon, ben, je pense que Gauthier, vous connaissez mieux que moi, mais on doivent se protéger de leurs prédateurs qui sont les copépodes, le krill et tout ça. Donc, ils ont développé une carapace
en verre.
Une coquille en verre, exactement, fabriquée à température ambiante, pression ambiante. Et c'est fascinant. Moi, je suis absolument émerveillé à chaque fois que j'observe ces diatomées, parce que plus on zoome, plus on découvre des structures hiérarchiques, micrométriques, nanométriques. On découvre aussi que cette coquille de verre peut avoir des propriétés optiques. Enfin, c'est juste fascinant. Et moi, je me dis, après avoir contemplé tout ça, je me dis, bon, ok. Alors maintenant, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis pareil, ce problème de conception légère, j'ai parfois l'impression de m'inscrire dans l'effet rebond, parce que donc, si on construit des choses légères, c'est cool. On va peut-être économiser un peu moins de carburant, émettre moins de CO2, mais j'ai pas le sentiment d'être vraiment, encore une fois, dans une vraie démarche biomimétisme, et je vois pas trop où aller.
Ok. Bah, écoute, je vais réagir en essayant de pas aller trop loin dans la technique pour que ça reste intéressant pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, ce que je entends tout de suite, c'est que quand on rentre là-dedans, on rentre forcément dans du high-tech. Et le high-tech, pour l'instant, il suppose toute une infrastructure d'électronique, toute une infrastructure électrique, et pour l'instant tout ça en soi n'est pas durable. Tout ce qui s'appuie pour l'instant sur de la métallurgie, et a fortiori quand on mélange des métaux dans tous les sens, est basé en amont sur des mines dont les conditions d'exploitation sont en général scandaleuses, tant pour les gens qui les entourent que pour les communautés vivantes qui les entourent, et bien sûr sur les combustibles fossiles. Là, je ne veux pas aller plus loin. Donc malheureusement, oui, moi je suis d'accord avec toi que l'effet rebond, il est immédiat. Donc l'effet rebond, ça veut dire qu'on économise 5% sur un procédé et que du coup, on en fait 20 fois plus. Hein. C'est genre les avions qui consomment 5% de carburant en moins, mais si vous triplez le nombre de vols, ben voilà, ça c'est l'effet rebond. Du coup, ce que j'ai envie de garder, moi, de ce que tu dis, c'est ton émerveillement, quoi. Parce que ça, par contre, ça je comprends. Les diatomées, c'est un beau sujet. Et effectivement, c'est de nouveau cet émerveillement du vivant. Et moi, j'ai souvent, enfin, de plus j'ai avancé en biomimétisme, plus je me suis dit, mais le high-tech vivant, laissons le vivant le faire. Arrêtons de vouloir reproduire un truc où nous, on est franchement encore archi nul et où on le fait de façon très, qui mobilise une quantité d'énergie phénoménal d'énergie, de métaux, de combustibles fossiles, etc., phénoménal, pour arriver à faire un truc que les diatomées savent faire, quoi. Laissons faire les diatomées. Alors, du coup, ça ne nous donnera pas toutes les applications qu'on veut. Mais honnêtement, moi, je ne crois plus à ces grandes solutions high-tech parce que le temps qu'on les déploie et le temps qu'elles soient non pas 1% plus efficaces, mais 100% plus efficace. Hein. Le GIEC, il nous demande quand même d'arrêter d'émettre, hein. Pas d'émettre 10% de moins, hein. D'arrêter d'émettre si on ne veut pas aller à la cata des catas. De toute façon, on va déjà à 2, 3 degrés, mais pour ne pas aller à 4, 5, 6, il faudrait arrêter d'émettre, quoi. Donc, on peut faire toutes les diatomées qu'on veut, on ne va pas arrêter d'émettre avec ça. Du coup, j'en reviens moi au seul exemple, je crois que j'ai fini par ne pas le nommer tout à l'heure, le seul exemple qui pour moi, pour l'instant, tient la route, c'est la permaculture. Mais la permaculture n'a pas attendu le biomimétisme pour exister. La permaculture a d'ailleurs été inventée quand même par deux Australiens qui craignaient l'effondrement. C'est entre autres en voyant l'effondrement venir que ça les a motivés à approfondir leur mariage de bon sens, de techniques issues des peuples premiers, de différentes formes d'agriculture, et d'en faire la synthèse qu'ils ont faite. Et pour moi, la permaculture, là, suit la route, parce que les principes, si tu prends la liste des principes de la permaculture, tu retombes à peu près sur la liste des principes du vivant. Alors, en tout cas, ils se croisent énormément, ils se fécondent d'ailleurs énormément. Donc, voilà, moi j'ai vraiment envie de... Enfin, moi, j'ai eu envie de laisser tomber le high-tech. Après avoir fait un projet, Mishka connaît, hein, on a fait un énorme projet européen sur comment fixer du carbone, mais quand même avec des bactéries, tu vois. Pas tellement en le fixant avec un procédé chimique nous-mêmes, mais en travaillant avec les bactéries qui, de toute façon, le font, et juste en essayant d'accélérer le process. Mais même ça, on a vite compris qu'il allait falloir des infrastructures de dingue pour amener le gaz carbonique au bon endroit et compagnie. On s'est dit, c'est bon, quoi. Avec ça, on ne fait que perpétuer le paradigme d'avant, et il faut aller dans un changement qui est beaucoup plus radical que ça, et qui, notamment, nous permette de fonctionner pratiquement sans combustible fossile et avec les métaux qu'on a déjà extraits, point barre. Si on était malin, on dirait dans 5 ans, on ferme toutes les mines.
Il est 10 heures, je voudrais juste quand même honorer la dernière question qui est presque double, oui. Parce que Damien posait la même question après, la question de la crise sanitaire actuelle, la COVID, et puis si ça n'a pas accéléré l'effondrement qui va arriver ou pas, c'est quoi, what's your take on it, comme on dit ouais. En anglais.
Et en même temps, on va essayer d'en faire une conclusion, mais c'est une très c'est bonne ça. Question. Je dirais que, alors, deux choses. C'est d'abord, pour moi, le fait que ça ne se soit pas cassé la figure ne prouve rien, parce que nous n'attendons pas, malgré le titre de « Comment tout peut s'effondrer », on n'attend pas, nous, un effondrement du jour au lendemain, dans le sens où le lendemain, on va pouvoir se téléphoner, si on arrive encore à se téléphoner, pour se dire, ça y est, ça s'est effondré, et avant, ce n'était pas l'effondrement, et maintenant, c'est l'effondrement. On voit plus on le regarde de près, plus on voit l'effondrement comme une succession de marches, de petites marches. Et du coup, là, par contre, le Covid, ça ressemble quand même à une première marche qu'on n'avait d'ailleurs pas trop vu venir, même si c'était cité. Les épidémies, on les a citées parce que c'est un facteur d'effondrement depuis la nuit des temps, mais on n'avait vraiment pas vu venir celui-là, il nous a pris de court lui aussi. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la crise du Covid, elle n'est pas terminée, et je ne suis pas en train de dire qu'elle va entraîner l'effondrement avec un grand E auquel on ne croit, comme je dis, pas vraiment, mais par contre, on est quand même... Il y a quand même toute une partie du monde là pour qui ça devient très très tendu, et on ne sait pas à quel moment ça peut nous gagner. Ce qu'on sait aussi, c'est que pendant ce temps, on est en train de perdre un temps de dingue par rapport aux décisions environnement qu'on avait à prendre. Il y a même tout un paquet de gouvernements, je ne surprendrai personne, qui en profitent pour prendre des mesures, des contre-mesures, ou qui en profitent pour rester timides par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, puisque ce n'est plus la priorité. Mais par contre, et moi c'est là-dessus que je voudrais insister, et c'est justement, ça sera aussi une bonne conclusion, c'est que je pense par contre que fondamentalement, ça nous donne à la fois plein de leçons d'interdépendance, de compréhension de l'interdépendance, et du temps. Alors, pas tout le monde de la même façon, malheureusement, mais ça donne du temps à un certain nombre de personnes pour implémenter des changements qu'on avait du mal à implémenter et que tout d'un coup, on peut faire. Je voudrais donner deux exemples pour terminer qui sont un peu triviaux, mais qui vont quand même vous faire comprendre. Pour l'instant, on travaille ici dans ma commune, là où on est, sur la reprise d'une entreprise de semences libres, de semences potagères reproductives, comme vous avez, style Prospecierara, là, comme vous avez en Suisse. Et On a mis un peu le nez dans la finance de ce groupe et on s'est rendu compte. Donc, eux, ils ont une croissance à 10% annuelle depuis qu'ils sont nés en l'an 2000. Et les deux années où ils ont fait 30%, c'est 2008, la crise économique, banks, et 2019, l'année passée. Et cette année, pendant le Covid, l'année n'est même pas finie, hein, ils ont fait 60% de plus. Donc, ça, c'est un chiffre. Les poulaillers ici, ça a explosé. Je ne vais pas commencer en Suisse, mais en Belgique, pendant le confinement, ça a explosé. Et les chevaux de trait, il n'y en a plus. Il faut aller les chercher en France. Pourtant, il y a une tradition chevaux de trait en Belgique qui survit comme elle peut. Et donc, c'est quand même vraiment intéressant de voir que le confinement et le Covid est en train de donner du temps, pas de donner des ressources, mais de donner du temps à ceux qui avaient des transitions à faire et qui voulaient les commencer. Alors, est-ce que ça sera suffisant, après, d'ailleurs, pour nous donner les fameux îlots de résilience prêchés par Denis Meadows pour faire le gros dos quand l'effondrement prendra des formes un peu plus sérieuses? Je n'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de sentir ça et de sentir à quel point, voilà, dans les têtes et dans les cœurs, c'est quand même en train de bouger. Et du côté, d'ailleurs, des grandes listes collapso, genre la collapsologie heureuse, etc., les groupes Facebook, ça a explosé, hein. Le confinement fait. Et moi, si ça fait exploser les gens qui réfléchissent là-dessus, c'est très bien. Après, si l'effondrement, ça se passe que dans 5 ans, ou en tout cas que les vagues fortes se passent dans 5 ans ou dans 10, moi, personnellement, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Il y aura tellement à faire. C'est très bien. Moi, je n'ai pas besoin que ça soit demain. Par contre, et je voudrais rien terminer là-dessus, vraiment, c'est que l'effondrement, moi, je distingue toujours, enfin, Pablo et Raph aussi, on distingue toujours les effondrements de la civilisation des effondrements du système Terre. Et pour l'instant, en gros, c'est les effondrements c'est la civilisation non effondrée qui provoque les effondrements du système Terre. Donc, au final, moi, l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, je le dis très clairement, je le souhaite. Je souhaite qu'il se fasse avec le moins de casse possible et le moins de souffrance possible, mais le plus tôt sera le mieux, parce que plus on attend et plus c'est les effondrements du système Terre qui sont violents, et à ce moment-là, tout le monde va déguster. Voilà.
Merci, ben c'est une conclusion très forte.
Et... happy collapse. Happy collapse.
Oui, voilà. J'étais surpris à un moment donné qu'il y ait moins de questions. Là, je suis sûr qu'on pourrait relancer sur 3, 4, 5 questions. Il y a aussi Mishka, je suis navré, la question sur que peuvent faire les ingénieurs dans l'histoire.
Du low-tech.
Du low-tech, ouais. Et puis peut-être entrer dans les intuitions et puis ne pas rester trop dans le système ingénieur. que ça reste un élément parmi d'autres de votre vie. Et vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas encore quand aura lieu le prochain Thinker Zoom, mais si vous avez coché la petite case pour être tenu au courant, vous serez tenu au courant dès que les choses avancent. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. En plus, je n'ai pas calculé ça, on n'avait pas pensé à ça, Gauthier. J'espère que ce n'est pas plus tard pour vous. Enfin, moi, je me couche assez tôt. Et là, ce 10 heures, pour moi, c'est presque 11 heures avec le changement d'heure qui a eu lieu hier. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit à venir. Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, Gauthier, encore une fois.
Et merci.
Merci beaucoup.
Et profitez bien de ce temps passionnant.
Merci.